une vie juste et généreuse, grâce de Dieu et pratique de la justice. Alors c'est un livre qui m'a assez inspiré, ça m'a vraiment, je dirais pas secoué, c'est pas le mot juste, mais voilà. En gros, je veux dire ma reconnaissance envers cet auteur, parce qu'effectivement, ça fait écho ce matin à moi, au thème que je vais évoquer. Donc justice, générosité, pauvreté et grâce de Dieu. Alors, introduction, histoire vraie, légèrement adaptée, d'une mère célibataire. Appelons-la Alice. Timothée Keller, qui fait référence dans son livre, mais cette situation est très largement transposable dans un autre milieu culturel que celui des États-Unis. Donc Alice, à 35 ans, c'est une mère célibataire de 3 enfants, 11, 8 et 5 ans. Elle est voisine de l'église, où elle vient à pied le dimanche assister au culte. Elle est heureuse, pendant une heure et demie, de pouvoir souffler un peu, chanter des cantiques, prier, déposer ses fardeaux. Parce que le reste de la semaine, ce n'est pas du tout rose. Pas de permis, ni de voiture, pas de boulot stable, si ce n'est de courtes missions d'intérim, peu rémunératrices. Alice dépend des minima sociaux. Elle connaît des fins de mois difficiles, surtout les 30 derniers jours, comme disait Coluche. Alors, bref, son quotidien, c'est la précarité et l'endettement. Et l'Église, à sa demande, l'a soutenue par un prêt. Et puis, les responsables ont appris qu'avec ce prêt, elle avait payé le McDo et de beaux vélos à ses enfants. Mais que les dettes, elles, étaient toujours là. Responsable outré, choqué, argent de l'Église dilapidé, on ne les y reprendra plus. Pourtant, Alice leur avait spontanément promis de bien utiliser le prêt. Qui est mon prochain ? Alors, nous savons bien, mais si on doit nous mettre à la place des responsables du conseil d'église, nous savons bien que ceux-ci ont conscience que le commandement biblique est clair à ce sujet. Il faut aider les pauvres, les croyants doivent aimer leur prochain. Moïse l'avait inscrit dans la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Ça, Lévitique, c'est le livre du Lévitique. Et le Nouveau Testament reprend clairement ce message, dans plusieurs passages que je ne lirai pas, mais le texte le plus explicite se trouve à ce sujet, et sans conteste, à mon sens, la parabole du bon samaritain, qui, dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37, qui nous a été lu ce matin par Laurent. Alors, en gros, quoi ? Un spécialiste de la loi se lève et demande à Jésus « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Oui, un héritage, avoir la vie éternelle, comme un bien. Et Luc précise que cette question piège vise à mettre Jésus à l'épreuve. Parce que ce savant s'était rendu compte que beaucoup de gens, en particulier de mauvaise vie, était attiré par Jésus dans le contexte immédiat de la parabole. Des gens pas clean, sans foi ni loi, par rapport justement à la loi de Moïse. Que va répondre Jésus ? Croyez en moi ? Ou bien une autre parole qu'il aurait montrée à ce spécialiste de la loi, qui n'est pas prêt à obéir complètement à la parole de Dieu ? Mais Jésus répond par une question double. Qu'est-il écrit dans la loi ? Et comment l'interprètes-tu ? Jésus le renvoie à la loi, ou plutôt à son résumé. Sinon, sa récitation aurait duré une semaine. D'où le résumé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voilà ce que lui répond le maître de la loi. Et Jésus de répondre aussi, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras, tu auras la vie éternelle en héritage. Autrement dit, obéis parfaitement à ces deux commandements, aimez le Seigneur, aimez ton prochain comme toi-même, et tu auras la vie éternelle. C'est un coup de maître, parce que Jésus a affaire à un moraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui pense qu'il est possible d'obtenir le salut, la vie éternelle, par ses bonnes œuvres et des efforts moraux. Et il montre à cet homme que le moralisme est parfaitement hypocrite. Les pharisiens, le parti religieux dominant de l'époque, accentuaient des détails minutieux de la loi. Vous payez la dîme, c'est-à-dire 10%, la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, c'est-à-dire 10% de taxes sur les herbes aromatiques du jardin. Tout cela pour essayer de se rendre acceptable aux yeux de Dieu. Mais Jésus les bat à leur propre jeu. Je paraphrase. En disant, tu aurais bien répondu, fais cela et tu vivras, c'est comme si, à mon sens, il leur adressait le message suivant. Avez-vous profondément pensé les implications de ce message « Aime ton prochain comme toi-même » Remplit-il chaque fibre de votre être ? Répondez-vous aux besoins de votre prochain avec toute la joie, l'énergie, la méticulosité qui vous anime dans la satisfaction de vos propres besoins. Dieu vous a créé, vous a tout donné. Et on l'a dit, ce matin, il nous a été rappelé à travers les offrandes. C'est un simple et juste retour des choses que de tout lui donner. Et modestement, à travers nos offrandes, c'est ce que nous symbolisons. Et Jésus dit, si vous pouvez prétendre avoir une telle vie, alors vous méritez certainement la vie éternelle. Vous l'aurez compris, évidemment. Accomplir de telles choses, de telles exigences, est une chose impossible. Et ainsi, Jésus cherche à rabattre l'orgueil de cet homme. C'est comme s'il lui disait, « Mais je cherche à prendre la loi, comme toi, et même plus sérieusement que toi, je cherche à prendre la loi au sérieux. Si tu parviens à accomplir ce qu'elle exige, tu vivras. » Alors le docteur de la loi est ébranlé par le jeu de Jésus. Mais dit le texte, verset 29, alors la version qui vous a été lue dans la Bible du Semeur, il veut se donner raison. Je préfère la notion de il veut se justifier. Être juste, être clean. C'est plus large que le raisonnement seulement intellectuel qui est sous-entendu par cette version. Il veut donc se justifier. Il discerne alors un autre moyen de se défendre en reprenant. « Oui, mais qui donc est mon prochain ?» Sous-entendu, tu ne veux tout de même pas dire que je dois aimer n'importe qui et répondre à ses besoins. Le bon samaritain, justement, c'est à ce moment-là que Jésus lui raconte l'histoire du bon samaritain. Celle d'un homme qui emprunte un chemin qui descend à Jéricho depuis Jérusalem, et effectivement ça descend sec, 900 mètres de dénivelé. Un chemin dangereux, malfamé, attaqué, détroussé, frappé par des pillards, il est laissé plus mort que vif sur la route. Passe par là un prêtre, puis un maître de la loi, des juifs, qui le voient, mais s'écartent et poursuivent leur chemin. Survient enfin un samaritain c'est-à-dire une sorte de métis religieux, méprisé des juifs pieux de l'époque. Pourtant, cet homme est ému jusqu'aux entrailles, il est rempli de compassion, il s'arrête, voyant se blesser, lui donne les premiers soins, avant de le charger sur sa monture, et le conduire jusque chez un aubergiste à ses propres frais, lui demande de veiller sur le blessé, jusqu'à son complet rétablissement, et s'engageant lui-même à rembourser les frais supplémentaires occasionnés. Alors que cherche Jésus en racontant cette histoire? Ben, tout simplement, si je puis dire, il apporte la réponse immanquable à la question « Que signifie aimer son prochain ?» Comment définir l'amour? Il décrit un homme qui répond aux besoins physiques, matériels et économiques par des actions concrètes. Pour Jésus, répondre à ses besoins n'est pas quelque chose de facultatif. Jésus n'accepte pas les restrictions posées par le docteur de la loi au commandement d'aimer. Sa réponse, l'amour oblige à des sacrifices pour les plus vulnérables, à la prise de risque, comme le fait ce Samaritain qui a risqué sa vie en s'arrêtant sur la route. Et ce n'est pas qu'une image. Cette route était vraiment appelée la route sanglante à l'époque, par les gens de la région. Jésus refuse les limitations que nous traçons entre ceux que nous jugeons dignes de notre amour, ceux du même niveau social et matériel que nous. Nous avons tendance, on le fait tous, à restreindre le cercle de ceux auxquels nous portons secours. Mais Jésus refuse cette ségrégation. Il choisit une histoire radicale. Un Samaritain a secouru un Juif. Il veut nous faire comprendre que notre prochain, c'est quiconque se trouve dans le besoin. Peu importe sa race, sa religion, sa carte syndicale ou politique, sa classe sociale. N'importe qui n'est pas votre frère ou votre sœur dans la foi. Mais n'importe quelle personne, n'importe qui, est votre prochain et vous devez l'aimer, dirait Jésus. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais en arrière-plan mental, nous avons tous des objections. Et cette partie, donc, est empruntée à un pasteur américain du 18e siècle qui s'appelle Edwards et qui est repris dans le livre, dont les arguments sont repris, les contre-objections, pourrait-on dire, les contre-arguments, sont repris par Timothy Keller. Et Edwards a prêché très souvent la parabole du bon samaritain et a dû répondre à des questions il y a 300 ans, enfin 200, 300 ans, qui ressemblent étrangement aux questions que nous nous posons. L'homme n'a pas changé. Et là, donc, quatre arguments autour du devoir de partager ses biens avec les pauvres. La première objection au partage serait du type « Les pauvres, ils meurent pas de faim, ils ont tous la télé et un smartphone. » Quoi, c'est vrai, quoi? Alors, j'ai envie de répondre. Est-ce que nous attendons d'être à la dernière extrémité pour réagir? Pour nous-mêmes, je parle. Pour réagir, alors pourquoi attendre que le prochain meure de faim? Pour réagir. On peut déjà répondre ça. Si moi je tiens ce discours, est-ce que mon cœur s'endurcit? Est-ce que l'amour du Christ m'étreint et me remplit comme les Samaritains pour combattre avec mon prochain lorsque je le sais plonger dans la difficulté? Si mon cœur n'est pas touché, je reconnais que le Christ ne m'a pas encore transformé en un individu rempli de compassion, ce que l'Évangile devrait transformer en moi. Deuxième argument, je ne peux rien donner, je m'en sors déjà à peine moi-même. Cela sous-entendrait, je ne peux rien donner, je m'en sors déjà à peine moi-même, je ne peux rien donner sans réduire mon niveau de vie. L'amour véritable, on pourrait répondre, ça coûte. C'est d'alléger le fardeau les uns des autres. Et que cela suppose une prise de risque, un endossement de certaines souffrances, et oui, un certain sens du sacrifice. Un troisième argument, qu'on entend très souvent aussi, le pauvre, il a mauvais caractère, il est pénible. Et en plus, il est ingrat. À peine un merci, et encore. On aimerait effectivement que la personne pauvre réagisse avec reconnaissance et joie à notre aide. Mais ce n'est même pas toujours le cas. Alors que répondre? Sinon, retourner à l'évangile. Le Christ n'a pas attendu que nous ayons un caractère droit et moral pour se livrer pour nous. Et je cite Edwards, je cite Keller, Christ nous a aimés, ça nous a été rappelé pendant toute la première partie, nous a témoigné de la bienveillance. Il a accepté de nous affranchir, alors même que nous étions animés par de mauvaises intentions, que nous ne méritions rien de bien. Alors, acceptons d'être aimables à l'égard de ceux qui ne le méritent nullement, c'est-à-dire pas plus que vous et moi. Comme disent les Anglais, last but not least, la dernière mais pas la moindre objection. Ben oui, les pauvres sont parfois responsables de leur pauvreté. La faute à leur manque de sagesse, leur mauvaise gestion, leur imprudence, leur paresse, leur prodigalité, en gros, ils dépensent tout, quoi. Alors, c'est effectivement, il faut reconnaître qu'il y a une part de vérité dans ça. C'est effectivement ce type de situation que l'on rencontre dans l'exercice de la générosité. Nous souhaitons tous, et là je vous le dis avec beaucoup de tendresse, nous souhaitons tous secourir des gens de bon cœur, pleins de sagesse, et sachant gérer leur budget, pleins de reconnaissance et de bonne humeur. Mais franchement, mes frères et sœurs, reconnaissons que c'est loin d'être la majorité des cas. Soyons donc nuancés. Effectivement, certaines personnes n'ont peut-être pas reçu la faculté de gérer les affaires de manière à s'en sortir. Dit autrement, ils font des choix sincères, mais très mauvais pour leur argent et leurs biens. Ben, je dirais qu'il paraîtrait donc normal que ceux qui ont reçu de la providence divine cette faculté de bien gérer, eh bien que ceux qui ont reçu cette faculté l'exercent en secours, en aide. Pour illustrer cet exemple-là, j'ai un cas concret d'un ami dans l'église qui avait accueilli une personne qui était en très grande difficulté, qui ne savait pas faire une addition, une soustraction, et qui pensait qu'on pouvait mettre la carte bancaire, et puis y aller, et qu'il a aidé, en lui expliquant les bases. Il avait reçu cette capacité de gérer. Et la personne, après des années et des années d'accompagnement, de suivi, et beaucoup de patience aussi, elle a beaucoup progressé dans ce domaine-là. Et là, j'ai trouvé qu'on touchait à quelque chose de juste. Allons plus loin. Comment agir quand la pauvreté survient du fait d'un comportement visiblement, matériellement, factuellement, égoïste, indolent ou violent? À mon sens, cela ne nous dispense pas de toute aide à leur égard, puisque Christ a eu pitié de nous. Mais si persistance dans la mauvaise voie il y a, à nos yeux, que faire? Je pense à Rémi, que quelques-uns des plus anciens dans l'église depuis nous il y a 20 ans, 25 ans. Rémi, il y a 20 ans, il a été accueilli, hébergé, mais dépendant à l'alcool et violent, envers plusieurs, et pour finir, envers sa locataire, une dame âgée. L'église a arrêté tout soutien. Cependant, c'est pour ça que je dis qu'il faut être nuancé, cependant, s'il s'agit d'aider une famille dont un ou plus ou deux ou dont un ou des parents sont défaillants, le soutien en vue des enfants sera en vue des enfants, pardon, et les parents en profiteront un peu, pas forcément très bien dans certains cas, mais ils en profiteront aussi un peu. Concrètement, cela ne doit pas donc nous empêcher totalement de pratiquer sous une forme ou une autre la charité, l'entraide. Revenons à Alice. Après échange autour de ces textes et de ces arguments, elle a à nouveau été aidée. En dilapidant le prêt, elle avait ressenti de la tristesse, mais aussi répondu à beaucoup de culpabilité de la triste vie qu'elle offre à ses enfants. D'où le McDo et les vélos. Je connais une petite parenthèse, au travail, on avait embauché une dame, mère célibataire, ce n'est pas Alice. Première paye, premier plaisir, aller au McDo avec son fils. Ainsi, les enfants avaient l'impression de faire partie d'une famille normale. Vu sous cet angle, nos cœurs sont souvent touchés. On ne perçoit plus la situation comme une affaire d'égoïsme, mais comme une vue de court terme. Ainsi, dans le cas d'Alice, une collaboration de long terme, un encadrement de grands frères et de grandes sœurs montre que cette famille avait besoin de plus que d'argent. La mère a accepté de collaborer avec les responsables et peu à peu, la situation de cette famille s'est améliorée. Sans les principes d'Edward et les textes qui les sous-tendent dans la Bible, nous pourrions nous aussi nous dire, je pourrais me dire, Seigneur, lorsque tu parles d'aimer notre prochain, tu ne penses certainement pas à quelqu'un comme elle, n'est-ce pas? Le Samaritain sublime. Eh oui, on y viendra. Un des faits importants est la place qu'occupe le juif, au sens large du terme, dans l'histoire du bon Samaritain. N'oublions pas que dans l'histoire, le docteur de la loi est un juif. Imaginons un instant que Jésus ait raconté l'histoire suivante. Un Samaritain fut battu et laissé à demi-mort sur le chemin. Un juif, le voyant, eut pitié de lui et prit soin de lui. Quelle aurait été la réaction du spécialiste de la loi et des auditeurs juifs? Mais ce que tu racontes, Jésus, mais c'est irréaliste, c'est inimaginable. Aucun juif respectueux de la loi n'a des relations avec les Samaritains, ces hérétiques. À plus forte raison, aucun juif sérieux ne s'abaisserait à cela. C'est bien ce que je pensais. Tu imposes aux gens des conditions irréalistes, impossibles. Mais Jésus confie le rôle de la victime à un juif, demandant ainsi à son auditoire juif de s'identifier à un naufragé de la vie, blessé, presque fichu, et dont la situation désespérée n'a d'issue que dans l'intervention d'un Samaritain. N'aurais-je pas voulu qu'il soit votre prochain, rejetant toute barrière raciale et religieuse? Certainement, j'aurais souhaité. C'est comme si Jésus avait dit « Si votre unique espoir était le secours de quelqu'un qui n'a non seulement aucune obligation de le faire, mais qui plus est aurait pu vous enfoncer davantage. Si votre seul espoir était d'obtenir un geste gracieux de quelqu'un qui, compte tenu de sa situation, aurait toutes les raisons de vous enfoncer. » Jésus conclut cette histoire par une question. Qui s'est montré le prochain de cet homme blessé? Le docteur de la loi doit admettre que c'est celui qui a eu pitié de lui. Ce faisant, il reconnaît que s'il avait été l'homme à terre, à qui une personne autour n'avait aucun secours à attendre, mais du rejet ou de l'indifférence, lui avait porté secours, il l'aurait tout de même accepté. Alors seulement, Jésus lui dit, va et agis de même. Jésus a exposé son point de vue, et le docteur de la loi n'a plus rien à répondre. Votre prochain est celui qui est dans le besoin. Dernière chose. Le maître de la loi ne pouvait pas voir ce que nous voyons aujourd'hui. Selon la Bible, nous sommes tous comme cet homme en train de mourir au bord de la route, spirituellement mort à cause de nos fautes et de nos péchés. Mais Jésus est descendu dans notre monde dangereux. Il a emprunté notre route. Et bien que nous soyons ses ennemis, par hostilité ou par indifférence, il a été ému de compassion devant notre sort. Ça nous a été lu à plusieurs reprises ce matin. À peine mourrait-on pour un homme de bien. Jésus est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Il s'est approché de nous et nous a sauvés, pas simplement en risquant sa vie comme un Samaritain, mais au prix de sa vie. Sur la croix, il a acquitté la dette que nous n'avons jamais pu éponger nous-mêmes, et pas seulement quelques deniers pour un blessé dans une bergerie. Jésus est le grand Samaritain vers lequel nous oriente le bon Samaritain. Avant de pouvoir offrir cet amour au prochain, vous devez d'abord, je dois, le recevoir. Sauvé gratuitement d'abord par quelqu'un qui vous devait le contraire, vous pourrez parcourir le monde ou le quartier à la recherche de toute personne dans le besoin. Une fois que nous avons reçu de Jésus cet amour du prochain, un amour simple et radical, nous pourrons commencer à nous conduire comme ces prochains que la Bible nous ordonne d'être.